Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On n'imitera pas le cinéaste Orson Welles qui, en 1935, sur une radio américaine, sema la panique dans la population en annonçant l'invasion des États-Unis par les Martiens. Non, mais après avoir lu le nouvel ouvrage de Miss Seltzer, on peut dire qu'une troisième guerre mondiale doit être bel et bien déclarée. Comment, après de multiples et effroyables violences ayant affecté l'humanité, on en est arrivé à cette guerre ultime? Comment arrêter un suicide collectif, lent, camouflé plus ou moins bien, mais inexorable? Quel monde voulons-nous? Michel Serres, qui ne méprise ni ne déteste rien de ce qui permet de penser librement, apporte son éclairage toujours très personnel sur une situation gravissime dont nous commençons à peine à prendre conscience, et il livre ses réflexions dans son nouvel ouvrage « La guerre mondiale » paru aux éditions du Pommier et aujourd'hui sur Radio Présence. Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est banal de le dire, mais la violence a toujours existé. Cain lui-même.
Cain et Abel, et probablement le péché originel doit avoir quelque chose à voir avec la violence, à mon avis.
Probablement. Voilà, alors ça fait partie de l'être humain.
Oui, ça fait partie de l'être humain individuel, puisque vous venez de parler de la haine de Cain contre Abel, mais aussi de l'être humain collectif, parce que finalement, Cain et Abel, c'était deux frères, et ce qui est porteur de haine, c'est la relation. Et donc, la violence doit être traitée au moins de deux manières, du point de vue individuel, et ça c'est assez facile à le voir, mais aussi du point de vue collectif. Et la première scène que je montre, c'est une bagarre qui se passe dans un bistrot, en effet, mais qui est une scène que tout le monde connaît bien, parce que finalement, la violence collective est relativement répandue et assez facile à décrire, et c'est expérimenté de tous bords et de toute manière. Voilà, elle est collective.
Elle est collective. Alors, vous attribuez ça, me semble-t-il, à un moment donné, vous parlez de mimétisme. Alors, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas dit à l'envie.
C'est-à-dire, quand je dis mimétisme, je fais plus ou moins allusion, disons de manière virtuelle, à l'œuvre de René Girard qui dit précisément que la relation mimétique est une relation qui est génératrice de violence. Et puisque vous venez de parler de Cain et d'Abel, il est bien clair qu'ils étaient frères. Et savez-vous, chère Monique, que sur 10 meurtres répertoriés par les polices du monde, il y en a plus de 6 qui se passent dans les familles. Et sur 10 meurtres, il y en a 9 où l'assassin connaît intimement sa victime. Et par conséquent, vous voyez que le mime, c'est-à-dire au moins la relation la plus proche, la relation rapprochée, la relation de voisinage est extrêmement efficace dans ce qu'on peut appeler ce qui porte la violence. Vous voyez. Et par conséquent, j'ai dit mimétisme à cause de ça, parce que c'est un peu le même. Si vous allez à l'étranger, dans un quartier dangereux, etc., vous ne risquez pas grand-chose, vous êtes un étranger, un autre. Tandis que mime, c'est même. C'est-à-dire qu'on assassine le même plutôt que l'autre. Mime même, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai dit mimétisme.
D'accord. Alors, vous dites, autrefois, on avait une conscience permanente de la mort, mais en France, du moins, oui. Depuis 60 ans, cet aspect-là est...
Oui. Le rapport à la mort est un rapport très intéressant, qui a une histoire et qui est connu d'ailleurs. Il y a beaucoup d'historiens qui ont fait des livres sur la mort. Ce n'est pas la peine de les citer, ils sont connus. Mais j'en appelle plutôt à ma propre expérience. Vous voyez, il y a deux ou trois contraintes ou deux ou trois choses qui ont beaucoup transformé cette chose-là. La première, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie qui était de 35 ans pour vous, les dames, dans les années 1850, est devenue aujourd'hui de 85 ans. Et pour nous qui sommes le sexe faible, comme vous le savez, l'espérance de vie est plutôt de 74-75 ans.
Vous devez pratiquer beaucoup plus d'abus.
oui, c'est ça peut-être. Vous avez presque 10 ans de plus d'espérance de vie que nous. Donc premièrement, espérance de vie, donc la mort s'éloigne un tout petit peu. Deuxièmement, le progrès considérable de la médecine, de la pharmacie, de tout ce qui est, antalgique ou anesthésique, a fait un peu éloigner la douleur. Et d'autre part, circonstance vraiment très importante, depuis 60 ans, les pays d'Europe occidentale sont en paix. et par conséquent l'expérience de la mort telle qu'elle peut être amenée par les conflits, par les batailles, par les communiqués de guerre, ont un peu disparu de l'horizon, sauf évidemment les guerres très extérieures à notre sol.
Tout à fait.
Et du coup, espérance de vie, médecine, paix longue, puisque c'est bien ce que je dis dans le livre, 60 ans de paix, ça ne s'était pas vu depuis la guerre de Troie, en gros, vous voyez, c'est-à-dire beaucoup plus de 2000 ans, 3000 ans presque.
Oui, il y a bien des pays qui nous l'envient. J'ai entendu une hindoue qui, il n'y a pas très longtemps, disait vous avez cette chance.
Ah oui, oui, mais ça, je le dis dans le livre et je le dis peut-être assez maladroitement, mais je voudrais dire ici publiquement que moi qui ai connu beaucoup de guerres, et je le rappellerai peut-être tout à l'heure, je voudrais que les gens qui n'ont pas connu la guerre, c'est-à-dire qui ont toujours été en paix, s'en souviennent. C'est-à-dire, qui parmi vous, auditeurs qui m'écoutaient aujourd'hui, qui parmi vous qui partait au travail à 8 heures, qui allait chercher les enfants à 4h30 l'après-midi, qui font des courses, etc., qui, dans la rue, sur les places publiques, se dit à un moment, tiens, nous vivons en paix. Personne ne le dit, on l'oublie.
Voilà. Et est-ce qu'on peut se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu quand on n'a pas beaucoup d'imagination, peut-être
on a toujours vécu en paix. On pourrait se souvenir quand même qu'on vit en paix.
Qu'on vit en paix,
voilà.
Exactement.
Et c'est pour ça que je dirais volontiers que la paix, c'est l'oubli. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Ça veut dire simplement que comme ils sont en paix, ils s'en souviennent pas. On ne se souvient pas de la paix lorsqu'on vit en paix.
Oui.
On se souvient de la guerre lorsqu'on a vécu en guerre. Il y a le rapport entre la guerre et la paix, c'est le rapport entre la mémoire et l'oubli. Et on oublie qu'on est en paix. Alors, messieurs,
d'ailleurs, quand
mesdames,
vous parlez,
souvenez-vous que vous êtes en paix.
Entre parenthèses, on aurait pu en parler plus tard, mais vous parlez de prescription. Oui. J'ai bien aimé aussi cette idée, ce n'est pas quand même oublier, c'est pardonner.
Pardonner, mais ça
c'est
différent. C'est une autre question.
Oui, c'est une autre question.
Tout à l'heure.
Alors, vous dites que jusqu'à présent, on distinguait deux sortes de violences. D'abord, les tueries légales et admises par tous, les guerres dites classiques. Alors, c'est-à-dire que ce sont des violences qui se font dans des états de droit, des états...
C'est ça. Alors, au milieu du livre, après une longue série de réflexions et de témoignages, je tente de définir la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre ? C'est une vraie question. Et je finis par dire que la guerre est une institution sociale et politique de droit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a de guerre que lorsqu'il y a eu déclaration de guerre. Et le mot « déclaration » est très, très remarquable, puisque c'est « déclarer », »,« clarer », devenir « clair », rendre au clair, dire haut et fort qu'on est en guerre, vous voyez, que tout le monde soit averti qu'on est en guerre. Il y a une déclaration de guerre préalable. Si la guerre se termine, elle va se terminer d'abord par une signature d'armistice et ensuite par un traité de paix, qui sont deux actes de droit. Et pendant le parcours de la guerre, pendant les deux États qui se font la guerre, se réserve le droit de dire à un certain moment, nous allons pratiquer un cessez-le-feu pendant 8 jours, 4 jours, 15 jours, etc.
À Noël, il y a eu la trêve de Noël.
Et par conséquent, vous voyez à quel point
c'est
la guerre classique est légiférée et encadrée par des dispositions légales.
Alors,
donc la guerre est de droit. Voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi le cheminement de votre pensée. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup souffert et vous en souffrez encore de la guerre que vous avez vécue, des guerres que vous avez vécues.
Le livre que je viens d'écrire est un livre double d'une certaine manière, ou même triple. Il est d'abord un essai philosophique de tentative de définition de la guerre comme institution de droit, comme je viens de le dire, et d'ailleurs, par parenthèse, de terrorisme comme non-droit, de le passage, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des guerres justes, parce qu'il y a une différence entre le droit et la justice, on pourrait en reparler. C'est donc un essai de définition juridique et philosophique de la guerre, mais c'est aussi un livre personnel de souvenirs. Et c'est un livre personnel de souvenirs pour une raison très très simple, c'est que mon père avait fait la bataille de Verdun, que je me suis né à une année où le nombre de naissances s'est effondré en France parce que les mâles en âge de se reproduire étaient tous morts à la guerre de 14, vous voyez. Que mes premiers souvenirs de 1936 datent de la guerre civile d'Espagne ou dans
avec
le sud-ouest.
L'afflux des réfugiés.
Il y a un afflux de réfugiés. Ouais. D'ailleurs, les rouges et les blancs un peu mêlés à cette époque, je me souviens. Ouais. Troisième souvenir, puisque d'abord mon père, puis la guerre d'Espagne, puis la guerre de 1939, forcément. L'afflux des réfugiés qui n'étaient pas du sud, mais alors tout coup du nord, c'est-à-dire les Lorrains, les Belges, les Picards, les gens de Paris, etc., qui affluaient dans notre Bini-Pyrénées ou dans le sud-ouest, vous voyez. Et puis ensuite, pendant la guerre, évidemment, les bombardements, la Gestapo, la résistance, la libération, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, ça ne se sait pas. Bon. Oui. Et puis, lorsque j'étais à l'âge de porter l'uniforme, je suis parti pour l'Algérie, où j'ai participé à la guerre d'Algérie. Et en tant que marin, j'ai même participé à l'expédition de Suez et à la signature de la paix à Suez avec les Égyptiens. Par conséquent, en gros, de l'âge de zéro à ma naissance jusqu'à l'âge de 28-30 ans, ça a été pour moi personnellement la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, sans arrêt.
Et vous êtes pourtant, vous avez intégré la marine.
J'ai démissionné de la marine.
Et oui, voilà.
Oui, alors... parce que précisément mon père était marinier sur la Garonne.
Oui.
Par conséquent, je suis parfaitement garonné comme vous, madame. Et donc, il était marinier sur la Garonne. Et un fils de marinier finit à la mer, forcément. Mais dès le moment, en effet, où je suis rentré à l'école navale, je me suis aperçu que je servais les armes. Et donc, j'ai quitté ce métier. Et c'est d'ailleurs à mes anciens amis de l'école navale qui est dédié mon livre.
Voilà. Alors oui, parce que effectivement, vous ne portez pas d'armes, même pas l'épée d'académicien.
Quand je rentrais à l'Académie française, j'ai refusé de porter l'épée.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous n'en êtes pas pour l'OTAN antimilitariste.
Non.
Voilà. Et alors, une idée...
Non, je l'étais, je ne le suis plus.
Voilà. Vous dites, en fait, l'armée n'invente ni ne consomme la violence, elle la limite.
Elle la limite. Alors, justement, c'est cette question. On revient maintenant du livre souvenir
sur le
ou du livre
sur
personnel
le sujet de la
ou du
violence.
Livre aveu.
Voilà.
On revient...
qu'on le fera au cours de
l'émission. Oui, on le fera tout le temps, bien entendu. Merci beaucoup. Et du coup... La question concernant la violence, je vais essayer de la raconter. Je raconte une échafourée dans un bar où, en effet, deux matelots se battent, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit, puis tous, vous voyez.
Comme donc, dans les films. Là,
voilà, comme dans les films. Alors, je décris la violence comme un phénomène de croissance. Et là-dessus, René Girard le décrit également comme un phénomène de croissance. D'ailleurs, nous tous qui, dans l'Ancien Testament, avons lu le déluge, nous savons que le déluge se termine par la colombe qui porte le rameau d'olivier, par l'arc-en-ciel qui est le signe de la paix revenue. Et donc, si ça se termine par la paix, c'est que probablement le déluge avait rapport avec la guerre. Et qu'est-ce que c'est que le déluge ? Eh bien, c'est le fait que si on laisse la croissance croître indéfiniment, la violence croître indéfiniment, eh bien, nous risquons l'éradication de l'espèce humaine, sauf Noé, sauf une sorte de survivant. Et je crois que le déluge, c'est cette...
Ça a été une forme d'éradication.
Je crois, d'éradication. Alors, du coup, si nous risquons l'éradication totale de l'espèce humaine, toute la question de la violence consiste à la limiter. Voilà. Alors, supposons par exemple que deux villes se battent, et je prends l'exemple de l'histoire romaine.
Les Horaces et les Curias.
Supposons que Rome et Albe se battent, alors tout le monde va se battre contre tout le monde. Et tout d'un coup, il y a un homme un peu plus sage qu'un autre, un roi, je sais pas, un roi de Rome, un roi d'Albe, etc., qui décide, écoutez, ce serait quand même dommage de faire se battre les femmes enceintes surtout, ce serait dommage de faire se battre les enfants. Ils n'ont rien fait à personne. Ça serait dommage de se faire battre ensemble les vieillards. Ils ont déjà suffisamment d'arthrose et de rhumatisme pour ne pas se battre, etc. Alors on met à part, et on garde seulement l'armée. Et du coup, l'armée est précisément une limitation à la question de la violence.
Voilà.
Nous y sommes.
Et voilà. Et nous sommes là, dans la guerre, qui est balisée.
Encadrée par des institutions de droit et... D'abord par la soustraction que je viens précisément d'analyser. Cette soustraction qui fait, et d'ailleurs, puisque vous avez parlé des Horaces et des Curias, et c'est bien d'eux que je parle, qu'est-ce que c'est que les Horaces et les Curias ? C'est cette soustraction. C'est-à-dire, les rois d'Albe et les rois de Rome, nous sommes tous les deux rois, vous d'Albe, moi de Rome, du coup, c'est dommage. Regardez ces braves gens. Ils sont tous beaux comme des Apollons, ils sont tous en âge de procréer, ils peuvent nous apporter du travail dans les champs avec la charrue et les semailles. Pourquoi les amener à la mort ? Prenons-en trois de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a de nouveau la soustraction.
Alors,
c'est la soustraction qui m'a intéressé.
Voilà. Alors, et puis, vous allez continuer à nous en parler. Mais si, pour l'heure, je vous demande, on va écouter un petit peu de musique et on reprend tout de suite après.
Quand vous voudrez.
Présence. Deux hommes de l'île de
bateau pour l'Angleterre là-haut, lutter pour la liberté. Cette outrance, grande France, lorsque de leurs enfants vous l'éviez. Parlait-il français, parlait-il breton? Portait alors la question. Ils avaient entendu l'appel, crié Kentor Mervel, vingt franquis sur leur ciré. Cette offense, grande France, que de condamner leur langue au bûcher. Cette violence, grande France, que de condamner leur langue au bûcher.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Michel Serres qui vient nous parler de son récent nouvel ouvrage, La guerre mondiale, paru aux éditions du Pommier, Le Pommier. Là, Michel Serres, nous parlions de la guerre telle qu'elle existe. Et effectivement, on choisit les gens les plus solides, les plus forts, on élimine les femmes, les vieillards, les enfants. Mais ce que vous dites, finalement, c'est une manière de tuer les fils.
Ah oui, alors ça c'est une deuxième définition que je donne de la guerre, oui, que j'avais déjà plus ou moins donnée dans un livre précédent.
C'est déjà, oui, psychanalytique, hein?
Non, c'est un peu anti-psychanalytique. Et je m'étonnais de façon un peu discrète et un peu humble de dire que dans les amphithéâtres et les hôpitaux, on nous avait enseigné depuis des dizaines d'années l'importance dans les familles du meurtre du père. Mmh. Et moi qui étais un enfant de la guerre, je me suis toujours étonné de cette définition-là, parce que tout de même, ça mettait entre parenthèses les cimetières où des dizaines de milliers de stèles parallèles les unes aux autres se confondent, mmh, jusqu'à l'horizon, où on voit des, mmh, jeunes gens de 18 à 25 ans qui, ouais, sont morts à ce qu'on appelait autrefois le champ d'honneur, de manière assez cruelle et, ouais, assez héroïque. chronique, n'est-ce pas ? Quel honneur ! Ouais. C'était toujours pas l'honneur des pères.
Ouais.
Car enfin, quel âge avait-il, ceux qui avaient décidé de la guerre ? Quel âge avait-il, Hindenburg et Clemenceau ? Quel âge avait-il, etc. Ouais. C'était quand même des pères et quelquefois des grands-pères, c'est-à-dire des vieux.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'ils avaient décidé, sinon le meurtre des enfants ? Ouais. Et par conséquent, d'avoir appris le meurtre du père en amphithéâtre me faisait un peu mal au ventre quand je voyais que des dizaines, que dis-je, des vingtaines, quelquefois des centaines de millions de fils étaient alignés dans les cimetières.
Donc vous pensez, vous pensez qu'il y a implicitement une volonté de garder un pouvoir ?
Comment faire autrement ?
Ouais.
C'est très difficile de penser l'inverse. C'est-à-dire, je suis moi le patron de la France, vous êtes vous le patron de l'Allemagne, je vous demande gentiment de tuer mes fils à charge que moi je tuerai les vôtres. Quand même, c'est pas tout à fait des choses non volontaires, involontaires, etc. Il y a quand même quelque chose de profond dans cette affaire qui fait que accuser le fils de vouloir tuer le père alors que par millions il repose dans les cimetières me paraît un peu fort, vous voyez. Et là, vraiment, il s'agit du meurtre des fils. Voilà. Bon, mais ça, c'est une définition, disons, un peu marginale de la guerre dans le livre que je viens de...
Alors donc, ce que nous avons vu, c'est que la guerre est très balisée, normalement, parce que les guerres dont on a parlé, mais est-ce que ce sont de vraies guerres maintenant, que ce soit en Tchétchénie ou au Kosovo, à la limite, on ne sait plus si c'est guerre ou terrorisme. On va en arriver au terrorisme,
d'accord,
puisque vous nous dites qu'en fait, dans la guerre, on obéit à un droit, que c'est quand même très, très cadré, tandis que si on laisse la violence croître et se développer sans frein, jusqu'à l'éradication, on arrive au terrorisme.
C'est le terrorisme,
voilà.
C'est exactement ça le terrorisme, c'est-à-dire que si la guerre est une institution qui permet de soustraire un certain nombre de populations à cette effroyable tuerie, c'est cette soustraction dont j'ai parlé, est décidée de manière arbitrale, c'est-à-dire un arbitre qui essaie de faire cette soustraction qui est juridique, et c'est pourquoi vous parlez de cadre avec raison, c'est-à-dire c'est un cadre en effet légal.
D'ailleurs, vous comparez à un match de rugby.
Oui, exactement, toutes les luttes comme ça, au lieu de dire Agen contre Toulouse, on va dire 15 contre 15, et il y aura un arbitre, et ça sera encadré par le droit, ce sport pratiqué par les gentlemen, sport de voyous pratiqué par les gentlemen, vous savez, selon...
Contrairement au football.
Voilà. c'est exactement le modèle réduit de ce qui a lieu, effectivement, sur les champs de bataille. C'est beaucoup mieux que les champs de bataille, puisque dès qu'il y a un petit amorce de violence, il y a coup franc. Vous savez, on arrête. C'est l'arbitre qui est vraiment le chef. Bon. Et là, si c'est... Alors, parenthèse ici, j'ai dit institution de droit, ça ne veut pas dire institution de justice, hein.
Oui, je l'ai bien dit.
Il y a une différence entre le droit et la justice. La guerre est de droit, elle n'est pas forcément une guerre juste. Et même, je soupçonne qu'il n'y a pas beaucoup de guerres justes, et peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Mais enfin, bref, de toute façon, c'est une institution de droit. Du coup, le terrorisme est de non-droit. Alors, c'est facile à comprendre. Nous avons parlé tout à l'heure de déclaration, mais claironnée. À la fois pour l'oreille et clair pour la vue, toi, mon ennemi, tu auras un uniforme vert, moi j'aurai un uniforme bleu, et par conséquent, je ne me tromperai pas.
On sait où on en est.
On sait où on en est, on sait que tu es de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de la tranchée. Donc, dans l'espace, dans le temps et pas pour les hommes, les choses sont claires. Dans le terrorisme, rien n'est clair. On ne sait pas qui est votre ennemi, on ne sait pas quand. Il attaquera, on ne sait pas comment il attaquera, et on ne sait pas qui il attaquera. Et par conséquent, le droit a disparu, et ce n'est pas du tout clair. Donc le terrorisme est de non-droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas d'État. D'ailleurs, il y a bien deux terrorismes.
Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut être juste, ce terrorisme ?
C'est pas parce que la guerre est de droit qu'elle est juste. C'est pas parce que le terrorisme est de non-droit qu'il est injuste. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport.
Par exemple, la résistance, c'était du terrorisme.
On peut discuter sur cette question.
Les Allemands auraient dit ça.
Les Allemands disaient que c'était du terrorisme. Les Français disaient que ce n'était pas du terrorisme, c'est le droit de se défendre ou le droit de ne pas se défendre. Il s'agit toujours d'institutions de droit. Et lorsque vous parlez de la Tchétchénie, il est bien clair que pour les Russes, les Tchétchènes étaient de non-droit, et que, inversement, pour les Tchétchènes, la résistance qu'ils faisaient contre les Russes était de droit. Mais là, il n'y a pas d'accord entre Exactement, le droit et le non-droit. Ouais. Et par conséquent, à mon avis, ce n'est pas tellement une guerre, là. La guerre, il faut qu'elle soit décidée de façon juridique par les deux parties, vous voyez. Et du coup, aujourd'hui, nous voyons très peu de guerres, contrairement à ce qu'on dit dans les médias.
De vraies guerres, il y en a plus.
Oui, je ne pense pas que M. Bush ait déclaré la guerre à Al-Qaïda. Parce qu'il la déclarerait à qui ? Il n'en sait rien. On ne sait pas où il est, qui ils sont, combien ils sont et ce qu'ils vont faire. Par conséquent, là, il y a une sorte de cadre juridique qui a sauté. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait qu'il y a un terrorisme d'État et un terrorisme, disons, individuel, tel que nous le connaissons aujourd'hui avec les attentats, par exemple.
Comme à Bombay récemment.
Mais je crois bien que, puisqu'il y a eu un tribunal à Nuremberg, c'est qu'il y a eu des choses de non-droit qui ont été faites pendant la guerre.
Donc c'est un terrorisme à l'intérieur des guerres.
Exactement. Ouais. Alors là, c'est très raffiné, parce que c'est là où je me suis aperçu que le mot terrorisme et la chose terrorisme avaient été inventés par la France, par les Français.
Vous avez parlé de la Révolution.
C'est la Révolution française. C'est-à-dire le mot terrorisme, vous n'avez qu'à regarder un dictionnaire historique de la langue française, vous allez voir que terrorisme est le mot qui a été inventé au moment où Robespierre installait la terreur et que les gens qui étaient favorables au régime de Robespierre étaient appelés terroristes et pratiquaient le terrorisme. Et nos amis anglais, qui ont été parmi les premiers à utiliser « terroriste », pour voulait dire ceux qui, parmi nous, en Angleterre, étaient favorables au gouvernement qui pratiquait la terreur de l'autre côté de la Manche.
Oui. D'accord.
Donc là, y a tout d'un coup le terrorisme qui arrive et l'effet du terrorisme par rapport à la guerre. Alors, quittons, si vous voulez, les définitions de droit. On va dire d'un côté que le droit limite la violence. Vous avez parlé de cadre très justement, mais le non-droit la laisse croître. Voilà. Et plus vous avez de non-droit, plus elle croîtra. Et donc là, on se dirige vers l'apocalypse tout de suite.
Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale, mais simplement, nous avons parlé de terrorisme, mais c'est vrai qu'il y a une autre forme de violence. On a parlé de la guerre, on a parlé du terrorisme, mais il y a une autre forme de violence dont nous allons parler maintenant, que nous exerçons, consciemment ou pas.
Oui.
Et celle-là, c'est celle dont...
Nous allons en parler.
Voilà.
Qui est le vrai sujet du livre.
Exactement.
Présence.
Today, just in time. Papa cried, baby cried, said your tears are like mine. I heard some words from a friend on the phone, didn't sound so good. The doctor gave him 2 weeks to live, I'd give him more. Of your soul, one goes out, one comes in. You know that I would now, if only I could. You know.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Michel Serres et la guerre mondiale. Cette guerre dont nous allons parler maintenant, c'est le titre de son nouvel ouvrage paru aux éditions Le Pommier. Est-ce, Michel Serres, est-ce le renoncement au droit Aurel qui nous a amené à s'aborder notre esquif? Je vais utiliser comme vous...
Oui, des métaphores maritimes, voilà. Je vois Monique, très bien. Je reviens, en effet, vous avez raison de me le demander, sur le titre du livre. Lorsqu'on voit un livre qui s'intitule « La guerre mondiale », tout le monde croit que ce livre va parler de la guerre de 14-18, par exemple, qui est dite « Première guerre mondiale », ou la guerre de 39-45, qui est dite « Seconde guerre mondiale ». La première était moins mondiale que la seconde, parce qu'il y avait beaucoup moins de nations qui participaient. À la seconde, il y a eu beaucoup plus de nations qui participaient. Mais c'est une utilisation curieuse de l'adjectif, n'est-ce pas? Comment dire « mondiale » pour dire une guerre où le monde a participé. C'est-à-dire que quand on dit « guerre mondiale », si on prend vraiment l'adjectif dans son sens plein, dans le sens qu'il doit avoir dans la grammaire française, ce serait la guerre qu'on fait contre le monde.
Contre le monde.
Et oui. La guerre russo-japonaise, par exemple, c'est la guerre qui met en lice, en face à face, la Russie et le Japon. Et par conséquent, j'appelle guerre mondiale, moi, dans ce livre, la guerre que nous menons contre le monde. Et que mondiale veut dire et désigne l'adversaire d'une nouvelle guerre qui n'est plus du tout la Première ou la Seconde Guerre mondiale, mais la guerre telle que nous la pratiquons hic et nunc, c'est-à-dire aujourd'hui et maintenant.
Alors, qui est dû à quoi?
Au fait que nous la pratiquons depuis peut-être l'origine de l'humanité et que nous ne le savons pas.
Mais vous ne pensez pas que ça s'est quand même accéléré ces derniers temps?
C'est non seulement ça s'est accéléré, mais c'est devenu vrai alors que ça n'était pas tellement.
Oui.
Ouais, c'est ça.
C'était à petite échelle.
C'est là où vous avez raison. Oui, le mot petite échelle est probablement le meilleur. Mmh. C'est-à-dire que cette guerre-là, au fond, nous la perdions tout le temps. C'est-à-dire.
La nature avait toujours le dessus.
Mais oui, un orage était toujours plus fort qu'un voilier, c'est bien évident. Et un accès de grêle était beaucoup plus fort qu'un vigneron. Mmh. Et il était bien clair qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi lorsqu'il y avait moins 20, et ainsi de suite. Et par conséquent, que la planète était toujours beaucoup plus puissante que le genre humain. Et que nous étions, d'une certaine manière, parmi les choses qui ne dépendaient pas de nous, comme disaient nos anciens. Les choses qui dépendaient de nous, les choses qui ne dépendaient pas de nous. Et il se trouve que depuis quelques années, vous avez raison de parler d'accélération, nous avons des moyens désormais équivalents aux moyens du monde. Vous voyez, c'est-à-dire l'énergie atomique est équivalente à l'énergie d'un volcan, par exemple. Et puis nous avons des moyens de polluer extraordinairement raffinés. Je viens de lire récemment un rapport qui vient d'être fait par l'OMS qui dit que la mer du Nord est pleine de produits pharmaceutiques, d'ailleurs de produits anti-cholestérol, je crois.
Il faut aller nager dans la mer du Nord.
Ça vous fait rire, mais la mer du Nord est désormais morte. Et oui, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Comme vous l'avez dit gentiment au début de l'émission, je suis en effet un ancien élève de l'école navale et j'ai été officier de marine une partie de ma vie. Et j'ai été invité par les amiraux actuels de l'école navale pour célébrer le, je ne sais pas quoi, deuxième ou troisième anniversaire de la fondation de l'école navale. Et j'ai bien voulu accepter de faire ce... Et au ministère de la Marine, devant des gens qui étaient beaucoup plus gradés que moi, puisque j'étais le plus vieux dans le grade le moins élevé. Et j'ai donc eu le culot de faire le discours. Et j'ai commencé le discours en disant « Messieurs, vous aviez autrefois comme mission suprême de défendre la nation à la mer. Et vous avez sans doute l'expérience que depuis 60 ans, vous êtes en paix, comme nous. » Et que par conséquent, vous avez du mal à trouver aujourd'hui ou à désigner votre propre ennemi. Et par conséquent, j'aurai le culot, quoique étant le plus vieux dans le plus petit grade, de vous assigner une deuxième mission parfaitement nouvelle. Autrefois, vous aviez pour mission de défendre la nation à la mer. Aujourd'hui, vous avez pour mission de défendre la mer. Messieurs, la mer va mourir, la mer est morte. Et par conséquent, si vous ne la défendez pas, vous, qui va la défendre? Si les marins ne défendent pas la mer, qui va la défendre?
Alors, il y a la mer, la terre,
l'air, l'atmosphère, le climat,
les
animaux.
Et vous parlez aussi quand même, il y a également les hommes, parce qu'il y a une partie des hommes qui est dans un état...
Qui sont victimes de cette affaire-là, mais bien entendu. Donc, les hommes sont par contre-coup, victimes de cette guerre-là. Ouais. Et cette guerre-là, désormais, nous en avons l'expérience de plus en plus immédiate par des phénomènes que nous connaissons parfaitement, le réchauffement du climat, des chiffres tout à fait alarmants et qu'il faudrait proclamer à très haute voix. J'étais dans un congrès, j'arrive de Californie il y a 2 ou 3 jours, j'étais dans un congrès de biologistes et un des grands biologistes de notre temps, qui a été prix Nobel, disait qu'il croyait avoir atteint le chiffre à peu près précis. Il y a une espèce vivante qui meurt toutes les 6 minutes. Non pas un individu, mais une espèce.
Oui.
Toutes les 6 minutes, toutes les 8 minutes, il hésitait. Entre 6 et 7 minutes, mais enfin, vous savez, cette hésitation. Donc, il y a là, si vous voulez, vous n'avez qu'à regarder les photographies des calottes glaciaires qui sont en train plus ou moins de disparaître, ce qui va profondément transformer la planète.
Mais il y a une prise de conscience quand même.
Oui, ça y est,
ça y est.
Conscience.
Et les Américains aussi, depuis peu, mais ça y est.
Depuis peu, mais... Oui, un peu. C'est-à-dire, ils n'ont pas tout à fait encore pris conscience qu'ils étaient les plus gros pollueurs de la planète.
Enfin, il y a un espoir.
Il y a un espoir. Mais si vous voulez, je voudrais accentuer cette idée en disant qu'il s'agit bien d'une stratégie, d'une guerre que nous menons à l'environnement. Et cette guerre, je le répète, nous n'en avions pas conscience.
C'est l'avidité, le quoi ? C'est quand même le désir de posséder, non ?
Cher ami, je suis déjà venu ici l'an dernier. Vous m'avez déjà interrogé sur cette question.
Et vous avez une meilleure mémoire.
Approprié. Oui. J'ai écrit exprès un livre qui s'appelle Le Malpropre pour dire ça.
C'est-à-dire
que polluer, c'était l'appropriation.
Oui.
Ça, c'est déjà derrière nous, si j'ose dire.
Oui, mais voilà. Donc, on en est toujours là.
La guerre est de droit. Quel droit ? Le propriété, ça c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus.
Oui.
Et bon, alors...
Mais ce que vous dites, il y a quand même 2 espoirs. Alors d'une part, c'est vrai qu'une prise de conscience, mais vous dites que déjà, si on prend conscience et on prend des mesures, peut-être qu'on va arrêter de se faire la guerre.
Alors, c'est ainsi que mon livre La guerre mondiale est un livre que certains appellent optimiste et très optimiste, et en effet ça l'est. En effet, ça l'est. Et je prends simplement une image tout à fait sensible et facile à comprendre.
Une histoire de bateau, je crois.
Encore toujours une histoire de bateau, puisque décidément, nous n'en sortons pas. Mon père était marinier, j'ai été marin. Par conséquent, je suis toujours poussé dans le dos par ces affaires-là. Et supposez, par exemple, qu'il s'agisse en effet d'un bateau, que nous sommes embarqués. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Blaise Pascal, il n'était pas matelot, lui, nous sommes embarqués. Et en ce moment, supposer que les matelots du pont fassent la guerre aux matelots des machines et soient opposés les uns aux autres. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a une énorme voie d'eau à l'avant du bateau. Est-ce qu'ils vont continuer à se battre ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est de dire au moment où... Le vaisseau lui-même est réellement endommagé. Est-ce que ce n'est pas un espoir ? La prise de conscience que le monde est en danger n'est-elle pas un espoir concernant les affrontements que nous nous menons les uns contre les autres ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Et que d'une certaine manière, la prise de conscience du danger de la planète n'est-elle pas un espoir de paix ? Mais de paix universelle, du coup. Oui. C'est-à-dire, il faut bien à un moment se mettre ensemble pour réparer les dégâts si nous voulons survivre tous ensemble. Et là, il y a quelque chose qui touche à un effet humanité. Oui, il y a une humanité là qui est bien obligée de dire, prenons conscience du fait qu'à nous tous, nous sommes en train d'endommager. Du coup, oui, c'est une utopie, mais c'est un pari. C'est un pari, c'est une utopie. Est-ce que ça nous permettra d'arrêter les guerres ?
Les guerres, est-ce que... Bon, et en même temps, il faut penser aussi à arrêter les dégâts.
Oui,
on se demande maintenant ce qu'il va falloir faire. Hein. On n'en est pas là, tout à fait. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est... Je dirais 2 mots, civisme et fraternité.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut qu'on en arrive là.
Oui, jusqu'à maintenant, alors je voudrais vous accorder le mot civisme.
Mais pas fraternité.
Mais en mettant un bémol sur le mot civisme. C'est intéressant le mot civisme, mais c'est un peu comme le mot politique. Le mot politique vient du grec polis qui veut dire la ville, et civisme vient du mot cité qui en latin veut dire de nouveau la ville.
Oui,
et
qu'est-ce qui nous alors c'est réducteur, effectivement.
C'est pas seulement réducteur, c'est qu'aujourd'hui que nous vivons presque tous en ville, puisque nous étions 70% d'agriculteurs, nous sommes plus que 2% d'agriculteurs dans les pays analogues aux nôtres, mais c'est que les gens n'ont plus conscience du tout de ce que peut être l'environnement naturel, puisqu'ils sont tous en ville. Et par conséquent, c'est peut-être pas du civisme dont nous avons besoin.
Je trouve c'est une rééducation, en fait.
Fraternité serait beaucoup mieux, bien sûr.
Fraternité,
j'aime pas beaucoup non plus, pour une seconde raison. Alors, civisme, c'est à cause de la ville, mais c'est le rapport à la nature. Fraternité, je vous rappelle, Monique, que vous avez commencé cette émission en parlant de Caïn et d'Abel. Ben, c'était bien des frères. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être pas de fraternité. La fraternité n'implique pas que nous soyons en paix avec notre propre frère. Au contraire, nous avons rappelé au début de l'émission que la violence, souvent, était avec les proches. C'est donc, d'une certaine manière, un nouveau concept à inventer pour savoir comment nous serons demain ensemble pour réparer les dégâts du bateau.
Alors moi, je vais vous en proposer le doux.
Ah, le doux.
Comme une valeur virile.
Comme valeur virile. J'aime beaucoup le doux, puisque je suis en train de préparer des tas de livres sur la question du doux et du dur. Oui, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais en effet, aujourd'hui, toute la question concerne, nous sommes en paix, nous. Quel type de paix, demain matin, sera requise pour l'humanité pour précisément réparer les dégâts que nous sommes en train de donner au monde? C'est ça la vraie question. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'utopie, c'est vrai qu'il y a un pari à faire aujourd'hui, mais c'est le seul pari réel. Il faut y croire surtout pour une deuxième raison que j'ai un peu soulignée dans le livre, c'est que la plupart des gens nous proposent de nous faire voir des jeux à deux. Un contre l'autre. Toulouse contre les Gallois, je crois, c'était dimanche dernier, ou Monsieur Obama contre Monsieur McCain, ou Madame Royale contre Madame Machin, etc. Bon, c'est toujours des jeux à deux. Et en philosophie, vous savez que Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, a mis en scène la lutte du maître contre l'esclave, tout le monde connaît ça, et c'est très bien décrit, c'est magnifique, etc., mais il a oublié de dire où ça avait lieu. Tandis que Goya, le peintre Goya, fait voir où ça avait lieu. Et les deux personnes qui se battent l'un l'autre sont dans des sables mouvants. Et chaque fois qu'ils tapent l'un sur l'autre, ils s'enfoncent dans le sable. Et ce n'est plus des jeux à deux aujourd'hui, c'est des jeux à trois. C'est-à-dire le troisième, le tiers, c'est le monde. Voilà. La guerre mondiale est aujourd'hui un jeu à trois, et non pas le jeu à deux qui est le spectacle ordinaire que nous offrent les médias.
Voilà de quoi faire réfléchir nos auditeurs et vos lecteurs. Un grand merci, Michel Serres.
Merci.
Alors, je rappelle qu'il s'agit de La guerre mondiale aux éditions Le Pommier. Au revoir, merci.
Au revoir et merci.